Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être aussi présents, enfin, aussi nombreux présents ce soir. Je vais vous rappeler simplement un petit peu les règles de cette conférence. Donc, on va laisser le conférencier intervenir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après, vous pourrez effectivement poser des questions. Et donc, quand vous aurez une question à poser, vous leverez la main et la parole vous sera accordée. Voilà. Donc tout d'abord, Monsieur Lioger, merci d'avoir répondu à notre invitation, aux invitations de l'IME, et à votre venue dans la capitale des Vosges, à l'IME. Je vais essayer de vous présenter très rapidement, même si c'est difficile de le faire. Vous êtes sociologue et philosophe, professeur des universités à l'IEP d'Aix-en-Provence. Vous êtes diplômé en philosophie de l'Université d'Édimbourg. Vous enseignez également au Collège international de philosophie et vous êtes également chercheur associé au laboratoire Sophia Paul à l'Université de Paris 10. Pour les initiés, c'est Nanterre. De 2006 à 2014, vous avez dirigé l'Observatoire du religieux qui avait été créé en 1992 par Bruno Étienne, qui avait, selon la pour raison de fédérer les recherches en sciences politiques et en sociologie et en anthropologie sur le phénomène religieux. Vos recherches portent sur la mutation des identités religieuses, en particulier dans la globalisation, sur les croyances, les mythes contemporains, les constructions imaginaires individuelles et collectives et leurs conséquences politiques, sociales et économiques. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages et d'articles traduits dans plusieurs langues, en particulier un ouvrage paru en 2012 qui s'intitule « Souci de soi, conscience du monde vers une religion globale ». Vous avez aussi publié un essai qui m'a particulièrement intéressé, qui s'intitule « Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel », qui est une réflexion sur une allégation universelle qu'on pourrait appeler « revenu universel » inconditionnel maintenant. Le 16 août 2023, un petit message de publicité, apparaît votre dernier ouvrage qui s'intitule « Chaos, la promesse trahie de la modernité ». Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi des gestes, des symboles, des règles et des paroles codifiées de façon stricte et appropriée à des situations spécifiques de l'existence vont-ils permettre de comprendre la nature humaine comme elle est? Votre planche, qui a comme titre « Ce que les rituels nous disent du sens humain », va certainement nous éclairer. Merci.
Merci pour cette présentation. Alors, je vais essayer de montrer que ce qu'on appelle habituellement des rituels, ça a trois fonctions qui relèvent de ce que j'appelle les trois strates de désir humain dans mon travail. Puisque, à mon sens, dans le vivant en général, tout est une question de désir. Il n'y a que le désir. Il n'y a que le désir qui compte. Il n'y a que le désir qui compte dans le sens où même ce qu'on appelle l'idéologie, même les constructions théoriques qui sont intéressantes, en réalité, elles viennent sans cesse a posteriori. A posteriori pour expliciter des choses qui sont déjà éprouvées et qui nous motivent, comme disent les managers. Moi, je préfère le mot désir. Le désir, c'est une tension. C'est quelque chose qui est tendu. Le problème du vivant, en général, et des humains en particulier, c'est lorsque cette tension disparaît ou s'amoindrit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de distension. Lorsqu'il y a une distension, ça devient moins tendu, ben, c'est ce qu'on appelle une dépression, au sens physique, comme au sens moral du terme. Or, je veux essayer de montrer que les rituels, ils servent à manifester, à travailler cette tension des désirs, mais à trois niveaux, sur trois strates. Et donc, avant d'aboutir à ces trois strates telles qu'elles existent, à mon sens, à travers les rituels, et je n'ai pas encore dit les rites, parce que ce n'est pas exactement pareil, j'y reviendrai, je vais essayer de poser la question en sens inverse, avant d'en venir au rituel, poser la question, mais qu'est-ce que l'humain? Parce que quand on essaye de répondre à cette question, c'est ces gens qu'on appelle les paléo-anthropologues qui essayent de réfléchir à ce qu'on appelle le processus d'hominisation, c'est-à-dire à partir de quand on considérait que telle évolution organico-culturelle est humaine. À partir de quel moment, ben, c'est humain. On dit, ah oui, ça y est, ça c'est de l'humain. Alors quand on essaye de chercher cela, on est face à une multitude. Vous avez prononcé le mot de nature humaine. Alors moi, je refuse cette notion de nature humaine. Hein. Pas parce que, pas en soi. Hein. Je réduis cette notion de nature humaine parce que justement, chaque fois qu'on essaye de définir l'humain, et évidemment en le définissant, en le différenciant de ce qui serait purement animal, eh bien, on n'arrive pas à définir une nature, c'est-à-dire on n'arrive pas à définir une différence, comment dire, qualitative, mais seulement une différence en termes de degré. Et un des mots qui nous sert à valider cette différence en termes de degré, c'est un mot qui est devenu un mot valise aujourd'hui, qui est le mot complexité. C'est plus complexe, le cerveau est plus complexe, c'est plus ceci, c'est plus que... Alors moi, je ne suis ni dans la position de « c'est humain seulement parce que c'est plus complexe », ni dans la position de une nature qui serait complètement distinctive du vivant, ou même de la nature au sens classique ancien du terme, de la fusée, c'est-à-dire de l'ensemble du monde physique. En revanche, je crois que la bonne métaphore, ça serait que dans l'humain, il y a, comment dire, un changement d'état, donc un changement de condition humaine. Ce que disent les chimistes lorsqu'ils parlent d'un changement d'état, par exemple, pour un passage du liquide au gazeux, c'est un changement d'état, c'est-à-dire c'est vraiment différent, mais c'est la même formule. Mais c'est complètement différent, ça a des propriétés qui sont différentes. On va dire que j'essayais de définir l'humain comme le passage d'un état à un autre, dans ce sens-là, et ensuite je parlerai du rituel. C'est là où le désir joue un rôle fondamental. Le désir, donc chaque fois qu'on essaie, je vous dis, de définir l'humain, on tombe sur différentes strates de désir. Mais des strates de désir qui, à la base, sont communes avec l'ensemble du vivant. Par exemple, la première strate, ce que j'appelle moi, la première strate, c'est le désir de survivre. Je reviendrai. Deuxième strate, que j'appelle le désir de vivre, ou confort, désir de confort, ou désir de vivre, de survivre mieux, c'est équivalent à désir de survivre mieux. Ce que j'appelle aussi le luxe objectif. C'est du luxe parce que je peux m'en passer, mais objectivement, je peux mesurer ce que j'économise. Et puis, il y a la troisième strate que j'évoquerai, qui me semble être spécifiquement humaine, vous me direz, pour en discuter, ce que j'appelle le désir d'être. Et le désir d'être, c'est ce que j'appelle aussi le luxe subjectif. Non seulement je peux m'en passer, mais ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable et ça peut même, au niveau humain, mettre en péril, par des processus sacrificiels par exemple, mettre en péril mon désir de survivre. C'est paradoxal. C'est-à-dire le désir de survivre mis en péril au profit du désir d'être. Moi, c'est par exemple mon interprétation du djihadisme. Parce qu'on peut dire, ah, c'est une mise en cause du désir de survivre. Je pense qu'on analyse mal lorsqu'on pense que c'est le désir de disparaître. Non, c'est le désir d'être plus. Mais à un autre niveau, sur un autre plan, d'une autre manière. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre comment fonctionnent ces gens, par exemple. Mais en même temps, pour comprendre comment fonctionnent ces gens, c'est facile, il suffit de se regarder dans une glace. Parce que nous aussi, on fonctionne comme ça, même si on n'est pas djihadiste. C'est-à-dire à un autre niveau, sur d'autres plans, avec d'autres manières de voir les choses, avec des intensités différentes. Je sais que ça peut paraître choquant de dire ça, mais chaque fois avec des intensités différentes. Premier plan, donc, désir de survivre. C'est assez simple, le désir de survivre. Le désir de survivre, qu'on partage, c'est cette tension donc désirante qui consiste à continuer. C'est la continuité, la reproduction. Lorsqu'on n'arrive pas à continuer, lorsque le vivant n'arrive plus à continuer, à maintenir sa structure, par exemple, maintenir la structure de l'ADN. L'ADN, c'est juste un ordre, c'est-à-dire des lettres qui sont placées dans un certain ordre. Et donc, le désir de maintenir cet ordre, la continuité de cet ordre, lorsqu'il est mis en péril, bien à ce moment-là, la cellule se divise et donc il y a une reproduction. Elle transfère, en quelque sorte, il y a une opération de transfert. Donc, il y a ce désir qui est quasiment ce que les biologistes appellent, morphogénétique autonome, c'est-à-dire reproduction de la forme, des informations. La forme, information, passage, ça veut dire forme. Hein. C'est-à-dire reproduction de la forme, maintien de la forme, d'un moment à un autre, dans le temps, dans un temps plus long par la reproduction, etc. Et donc ça, c'est commun à tout vivant, jusque même nos cellules. Donc c'est pas ça qui est spécifiquement rien. Il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est, que je vous disais, le désir de survivre mieux. Désir de survivre mieux. Donc, luxe objectif. C'est, dans le premier niveau, si je l'utilise cette fois, pas pour le monde animal en général, mais seulement pour les humains, déjà sur les humains. Il y a ce premier niveau chez les humains, clairement. C'est-à-dire, le désir de survivre, il existe. Je vais chercher ma nourriture, il faut que je me nourrisse. À un autre niveau, il faut que je me reproduise. Le rapport à la sexualité, au désir sexuel, est directement lié à cette continuité qui nous traverse, qui passe par nous, comme dirait Schopenhauer, hein, dans Métaphysique de l'amour, Métaphysique de la mort. C'est typique de lui. C'est vrai que ça passe par nous. Ça passe par nous et on le maîtrise pas, même c'est ce que dit Freud. Le ça, c'est ça, ça passe par moi. J'ai l'impression que c'est ma volonté, mais en fait, c'est mon désir, ça me traverse. Hein. Fantasme, c'est ça aussi. Donc c'est ce premier niveau, je vais me nourrir, je vais faire un certain nombre de choses, etc. Deuxième niveau, ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait au fait que il faut que j'aille chercher ma nourriture pour me nourrir. Je pourrais y aller à pied, mais et si j'y allais avec d'autres modalités, par exemple si j'y allais en vélo, mais pour ça il faut inventer le vélo. Si j'y allais d'une multitude d'autres manières, j'y allais en voiture, si j'y allais avec des processus techniques, ce qu'on appelle les processus exosomatiques. C'est-à-dire qui sont à l'extérieur du corps et qui continuent le corps, exosomatique. Et alors là, je pourrais dire, c'est pour ça que je dis c'est du luxe, mais néanmoins, je peux mesurer ce que je gagne. Et ce que je le gagne en termes de temps, c'est-à-dire d'énergie dépensée. Donc je vais chercher ma nourriture. Pour aller chercher ma nourriture, je vais mettre, on va dire, une heure si j'y vais à pied. Je vais mettre 10, 15 minutes si j'y vais à vélo, peut-être encore moins si j'y vais autrement. Et donc je sais que ça crée de la liberté, ça crée de l'ouverture. Alors, je m'arrête là parce que la plupart des paléoanthropologues et nombre de mes collègues, même philosophes, disent « Voilà, qu'est-ce que c'est que l'humain ? C'est juste la complexification de cela, de cette deuxième strate. » D'où la complexification technique. Une technologie qui est de plus en plus sophistiquée, un cerveau qui est lui-même de plus en plus complexe, pour pouvoir fabriquer de la technique elle-même de plus en plus complexe, etc. C'est une question de complexité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais être obligé d'être très court sur ce point, mais j'ai fait beaucoup de conférences en expliquant dans le détail, y compris devant des scientifiques sur ce sujet. Je crois que, certes, l'humain est plus complexe, mais pas parce qu'il est à la base, je vais le faire très vite, pas parce qu'il est à la base plus complexe. C'est-à-dire sa spécificité, c'est pas sa complexité. Sa spécificité, c'est d'être complexé. Qu'est-ce que ça veut dire complexé? Complexé pourquoi? Je vous avais peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la néothénie. C'est-à-dire que l'être humain naît trop précocement. C'est-à-dire qu'il y a un défaut. Je ne vais pas expliquer pourquoi dans le détail, parce que ça serait ça hypothéquerait ma possibilité de passer au rituel. Hein. Mais ça crée un processus qui fait qu'il y a une sorte de complexe par rapport à ce sentiment d'être prématuré par rapport aux autres animaux. Et donc ce complexe crée une forme de réflexivité chez l'humain. Cette réflexivité, c'est ce qu'on appelle l'ego. Parce que l'ego, c'est du complexe. C'est le fait même de se raconter au-delà de sa simple composition organique, parce qu'en fait, on n'a pas confiance dans sa propre composition organique. Donc on est déjà d'emblée dans une forme de tension, avec cette histoire de construction de l'ego. Autrement dit, je ne dis pas que l'humain n'est pas plus complexe, c'est mon hypothèse, je dis qu'à la base, il n'était pas plus complexe, et c'est ce que montrent aujourd'hui les paléanthropologues. C'est-à-dire qu'il y avait des formes d'animaux qui étaient plus complexes du point de vue cérébral, dans leur manière de gérer leur environnement, qui répondaient de façon plus efficace aux obstacles évolutifs. Mais l'humain, lui, il était dès le départ face à son complexe. Et en fait, la gestion de son complexe l'a rendu plus complexe. En gros, l'humain a commencé à se considérer lui-même comme un problème, puisqu'il s'était... Et se considérant lui-même comme un problème, il a fini par créer des problèmes qui n'existent pas, en allant de la querelle de couple jusqu'à l'invention des mathématiques, puisque par définition, les mathématiques, c'est un problème qui ne se pose pas,
que l'on pose
sur le papier, mais qui va permettre de répondre à des problèmes qui vont ensuite se poser. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur la Lune, par exemple, pour quelle raison vous allez sur la Lune ? Pour quelle raison les Américains sont allés sur la Lune ? Prenons un exemple simple. Ça ne répond à... Ça ne surmonte aucun obstacle évolutif lié à la survie, lié même au confort, à la deuxième strate. C'est pour ça que j'en arrive petit à petit. Ça ne répond à aucun obstacle évolutif. Ça n'a aucun sens. Ça met même en péril les milliards qui sont balancés comme ça, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Mais alors, quel est le sens ? Le sens, c'est de mettre le petit drapeau. C'est de dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Si j'étais vulgaire, je dirais « what the fuck ». Je pourrais dire comme Bruno Etienne qui disait « Je ne suis jamais vulgaire, mais je suis ordurier. » Mais c'est pédagogique. Je vous fais la voix de Bruno Etienne si quelqu'un aura dû parler de ce personnage de franc-maçon célèbre. Parmi les francs-maçons en tout cas. Et cette histoire pourrait s'arrêter là. Parce qu'après moi, c'est de cela dépend toute une série de choses que j'explique dans Chaos. Hein, toute une série de choses qui sont par exemple sur l'histoire des sciences. Je dis, l'histoire des sciences, elle ne fonctionne pas par agglomération. Elle fonctionne, comme je vais maintenant l'indiquer, de la même manière que... C'est-à-dire qu'une fois que je suis sur la Lune, ça ne servait absolument à rien d'être sur la Lune, c'est-à-dire c'est un problème qui ne se pose pas, qui est lié à notre complexe, le complexe national américain, le complexe ceci, le complexe cela, et toutes les identités se construisent comme ça chez les humains. C'est une force vive. Et une fois que j'y suis, le type, il fait son petit pas, il est content, il met son drapeau, génial, les Américains... Mais il se retourne vers la Terre et il a une perspective qu'il n'aurait pas pu imaginer, puisqu'on est sur l'imaginable, sur la Terre, s'il ne s'était pas posé ce problème qui ne se pose pas. Et là, immédiatement, s'étant posé ce problème qui ne se pose pas, donc ayant résolu un problème qui n'en est pas un, il va acquérir une nouvelle perspective, au sens littéral du terme, perspective sur la Terre, qui va lui permettre de percevoir des problèmes réels qu'il n'avait pas imaginés, et donc de créer d'autres dimensions liées à cette perspective. Ce qui fait que l'histoire des sciences, pour moi, ne progresse pas par complexification, mais elle progresse en quelque sorte par saut égotique, si je puis dire. Ouais. Et c'est ça qui a produit cette complexité humaine. Or, cette deuxième strate, du coup, on voit bien qu'elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire, si vous dites que c'est... Si vous comparez avec les autres animaux, bah, vous avez les castors, ils font des barrages, donc ils ont des processus exosomatiques simples, mais ils ont des processus exosomatiques. En revanche, les humains, ce qui est intéressant chez les humains, je veux dire, on se dit, ah oui, mais c'est des barrages beaucoup plus complexes. C'est sûr, il suffit de voir un barrage hydroélectrique, on se dit, c'est super complexe, hein, c'est sûr, un castor ne pourrait pas faire ça. D'accord. Mais on voit le résultat à la fin, par rapport au processus que je viens de décrire, mais on peut se demander, qu'est-ce que c'est qui a justifié, c'est-à-dire qui a créé cette tension d'un autre niveau, d'un autre plan, c'est ce que j'appelle le désir d'être. Parce que les humains ont toujours le sentiment qu'ils ne sont pas assez. D'où là, le rapport à la distinction. On se distingue. On se distingue socialement, on se distingue. Et regardez, si on observe, si je fais maintenant, je prends les 4 ou 5 thèses chez les paléoanthropologues censées définir ce qu'est l'humain. On va dire, ah tiens, la première, on va dire, ah, ce qui est humain, c'est clair, c'est le langage, c'est la plus commune. Je dis, ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que les autres vivants, ils n'ont pas des systèmes codés de communication, ce qui est la définition basique du langage. Bien sûr que si, ils ont des systèmes codés de communication. Et oui, mais le langage humain est beaucoup plus complexe, etc. Et puis le langage humain, on va ajouter, il y a une dimension dans le langage humain que les linguistes appellent une dimension non performative. On va faire simple, la dimension non performative, c'est la possibilité de dire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas un transfert d'informations directes, qui peut même être un mensonge, justement, même mieux, qui peut être, en gros, qu'est-ce que je t'aime, alors que je m'en fous complètement, mais j'aimerais bien sentir avec toi. Voire plus. C'est-à-dire que le principe de l'humain, la dimension non performative, alors dans un premier temps, c'est la capacité à dire des conneries, la capacité, justement, à poser des problèmes par le langage, qui ne se pose pas dans la réalité effective, C'est la capacité, en fait, non performative en permanence, c'est-à-dire, on pourrait dire à un autre niveau, narrative, j'y reviendrai. Justement. Mais déjà, c'est ce rapport-là qu'on trouve dans le langage. Et je me dis, ah, là, on touche quelque chose d'intéressant. Mais, oui, mais, est-ce qu'on peut l'appliquer à l'outil? Ce qui fait l'humain, c'est l'outillage. Ben non, on vient de le dire, les castors, ils font aussi des choses. Les oiseaux, ils font des nids. Il y a une dimension exosomatique. Alors, on dit, oui, mais quand on observe l'outillage humain, c'est assez étonnant, parce que on pourrait définir l'outillage humain comme étant un outillage plus efficace. Mais qu'est-ce que ça, plus efficace, des colonnes dans ce temple? Pour tenir le ciel, la voûte étoilée? Qu'est-ce que ça a de plus efficace, l'esthétique? Qu'est-ce que ça a de plus efficace, une voiture qui est de telle couleur ou telle autre couleur? C'est pour ça que je dis, le désir d'être, c'est quoi, maintenant? Et je reprends mon exemple d'aller chercher la nourriture, qui consiste à aller chercher la nourriture. Premier exemple, je vais chercher la nourriture à pied. Deuxième exemple, je vais chercher la nourriture à vélo. Troisième niveau, désir d'être, je vais toujours chercher de la nourriture, c'est à la même distance, sauf que cette fois, j'y vais en voiture ou en vélo, mais pas avec n'importe quel vélo. Est-ce que le vélo, il a plus de performance, celui avec lequel j'y vais? Non, pas forcément. C'est un vélo qui est rouge, bleu, qui me dit ce que je suis, qui dit quelque chose de moi. Et tout le temps, on a ces trois, on est ces trois strates. Et la troisième strate, elle est... On pourrait penser que la troisième strate, elle n'est pas importante, elle est très importante. Parce que, dans un troisième temps, si je suis un bobo, si je suis un bobo parisien, qui veut retourner à la campagne et qui veut aller chercher sa nourriture au loin, et bien même s'il a une super voiture sophistiquée, si ça se trouve, il va juste y aller à pied. C'est-à-dire, il va remettre même en cause la deuxième strate, parce que oh, c'est tellement... Il se sent être à un autre niveau. Et c'est pas seulement le bobo parisien, ça a toujours été comme ça, depuis le néolithique, à des niveaux variables. En fonction, effectivement, des niveaux de précarité, c'est-à-dire du dosage, de notre capacité à utiliser ce désir-être qui est en fait la spécificité humaine. Et donc on a tout le temps cette troisième strate, quel que soit l'outillage. Je prends n'importe un outillage, une assiette, ça a l'air de rien une assiette. Une assiette, c'est oui, mais cette assiette, elle a appartenu à ma grand-mère. La soupe a-t-elle un goût différent dans cette assiette? Pour les humains, oui. Et c'est probablement vrai, du point de vue du désir d'être. Ou cette assiette, elle a une forme particulière qui ne change rien à la capacité de cette assiette de contenir la soupe de façon efficace. Oui. On néglige l'esthétique. Moi, je dis tout le temps que l'esthétique précède l'éthique. Que quand on adhère à un parti politique, on adhère à une esthétique avant tout. On vous enlève l'esthétique, ça ne vous donne même plus envie l'idéologie. Un écolo, il a besoin de vivre son écologie dans sa manière même de se présenter. C'est la présentation de soi, c'est le premier niveau, c'est la base de la base. Vous prenez des habits. Les habits, théoriquement, c'est un attirail sophistiqué pour avoir moins froid en hiver. Mais les humains utilisent des habits pour dire ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils se présentent avec des habits, ils disent ce qu'ils sont. Vous prenez des lunettes, désir de survivre, il y a le premier niveau, parce que si on est vraiment à moitié aveugle, bon ben voilà, on se tue si on n'a pas de lunettes, donc ok, je vais chercher des lunettes chez l'opticien. C'est le plus facile, en fait, le plus facile et le plus rapide, c'est que une fois que j'ai fait un test, je sais que j'ai besoin de telle glace. Hein? Donc voilà, je les ai. Et puis après, je vais choisir une monture confortable, deuxième niveau. C'est intéressant les lunettes parce que ça réunit les trois. Puis après, là c'est là où c'est le plus long, hein? Là on doute le plus, parce que c'est le plus important pour l'humain. Et donc l'opticien, il a compris, il vous dit, essayez plutôt celle-là, elle vous ressemble. Moi j'adore quand l'opticien vous dit ça. Parce qu'elle ressemble à qui? Elle ressemble à ce que je désire être. C'est-à-dire, elle ressemble à la structure même de ma narration. Et dès qu'il m'a vu rentrer, il a compris que je voulais ressembler à Indiana Jones. Ou il m'a vu me la jouer un peu intellectuelle, donc il m'a donné des petites lunettes rondes qui font un peu Sartre, parce qu'il est cultivé. Oui. Et immédiatement, c'est ça qui va emporter le morceau. Et c'est ça qui va justifier, ça va justifier notre mode de vie tous les jours, jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à une logique sacrificielle qui est avant tout esthétique. C'est une esthétique, il y a une esthétique de l'héroïsme, une esthétique de la sainteté. Donc ça me semble être plus important. Deuxième, quand on essaie de définir donc ce qu'est l'humain, par l'outil, ben on se rend compte qu'il y a une différence d'état mais qui n'est pas lié à la complexité en fait, de l'outil lui-même, qui est lié à autre chose, au complexe, justement, dans la manière même de se présenter. Puis il y a d'autres thèses, il y a la thèse sur le rapport à la mort, pareil, on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la mort? Les humains, ils ont un rapport à la mort. Pareil, c'est lié au complexe, sentiment de fragilité, etc. Et donc, désir de continuité à un autre niveau, et on voit bien que, bien sûr, que les animaux, ils ont un certain rapport à la mort, qui n'est pas comme ce qu'on peut imaginer, un rapport traumatique, ou un rapport même quasi-conscient, ça dépend ce qu'on appelle la conscience. Mais en fait, chez les humains, ce rapport, il est autre parce qu'il est médiatisé, à nouveau, dans cette espèce d'esthétique de présentation de soi. Et puis enfin, justement, on en arrive à la dimension du rituel, parce que justement, lorsqu'on parle de rituel, les paléanthropologues nous disent, ah voilà, ce qui distingue, vous savez, ça fait 1, 2, 3, la quatrième dimension, il y en a encore quelques-unes, mais c'est les plus fondamentales, dites-moi là, ce qui fait la différence entre l'animal et l'humain, ben c'est justement les rituels. Rien n'est moins sûr, les rituels. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est le rite, justement, c'est ça. C'est pas le rituel. Parce que les rituels, c'est quoi? Les rituels, justement, et c'est là où je vais en venir, et je vais appliquer mon modèle à la question des rituels, je vais appliquer mon modèle de trois dimensions de désir, pour dire que la première strate du rituel, la première fonction du rituel correspond à la première strate de désir. La deuxième correspond à la deuxième strate, la troisième à la troisième. Ah, première strate de fonction du rituel, partagée avec tout le vivant. Le rituel a une fonction de survie directe. Quelle est cette fonction de survie directe? C'est simple, un rituel à la base. À la base, c'est le fait de faire quelque chose sans y penser. Et de refaire la même chose sans y penser, au même moment, dans le même espace. Pourquoi ça a une fonction de survie? Ça a une fonction de survie parce que ça libère le potentiel d'action en cas de hasard, en cas de danger. Où justement, il faut pouvoir être libre d'agir immédiatement. Et donc ça rend la chose plus efficace. C'est-à-dire qu'on est plus efficace grâce à l'action routinière, c'est ça, le rituel, c'est la reproduction de l'action routinière. Et ça libère un espace mental sur l'incertitude, sur le danger, pour pouvoir immédiatement réagir. Donc ça a une fonction de survie directe. Mais ça, c'est pas spécifique aux humains. Les humains, ils sont bourrés de rituels, du matin jusqu'au soir. Mais les animaux aussi sont bourrés de rituels. Ils n'arrêtent pas d'avoir des rituels. Ils reproduisent. C'est pour ceux que moi j'adore les chiens. Les chiens, ils sont bourrés de rituels. Les chiens, ils tournent autour au moment où là, vous posez la nourriture, etc. Et c'est très utile pour eux. Le deuxième niveau, le deuxième plan, donc pour rien, c'est le désir de survie. Deuxième plan qui correspond à ce qu'on appelle le confort objectif du rituel, qui est la deuxième grande fonction du rituel dans le vivant dans son ensemble, mais là en particulier chez les mammifères supérieurs. Partage avec eux. Vous avez compris que le premier niveau, c'est partagé partout, y compris par la cellule. Deuxième niveau, on se situe déjà presque chez les mammifères supérieurs, deuxième strate. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le rituel a une autre fonction. C'est une fonction d'orientation. Pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et je donne un exemple très simple. Imaginons un étudiant ou une étudiante qui va tous les jours dans un amphithéâtre, qui se sent perdu dans cet amphithéâtre parce qu'il y a énormément de monde, il ne sait pas très bien où elle est, ou il ne sait pas très bien où il est, c'est difficile de gérer. Et donc, elle s'assoit ou il s'assoit toujours à la même place. Le rituel de s'asseoir toujours à la même place, d'accord? Ce rituel de s'asseoir toujours à la même place, ce n'est pas ce qui correspond au désir de survie, c'est-à-dire à la première strate. Ça n'emporte rien en termes de routine qui libère une possibilité de réaction potentielle. Par contre, ce que ça fait, c'est que quand elle se rend dans l'amphithéâtre, ça crée une forme de sécurité mentale où elle sait où elle va. Elle sait où elle va, elle sait qu'elle va s'asseoir, ou il sait qu'il va s'asseoir à cet endroit, et donc ça crée de la sécurité mentale, de la continuité, et donc elle a le sentiment que voilà, aujourd'hui elle s'assoit là, demain là aussi, et donc ça crée de la certitude dans un monde incertain, mais là une certitude au niveau mental. Donc ça permet de s'orienter. Ça permet de s'orienter, de dire j'étais là hier, donc je sais que là c'est destiné à ça, et donc ça me permet d'agir, de me sentir mieux, et de vivre de façon plus claire. Le troisième niveau, justement, du rituel, c'est le rituel qui ne sert ni à la première strate, ni à la deuxième strate, mais au désir d'être. Et à ce moment-là, le rituel, il ne peut, ce rituel-là, que s'insérer dans un rite. C'est là où je m'arrête. Qu'est-ce que c'est que le rite ? Je crois que c'est très important pour les francs-maçons de réaliser ça, parce que chez les francs-maçons, ils distinguent rarement rite, rituel, ils disent oui, c'est le rituel, le rite, etc. Non, 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 c'est très simple. C'est que le rite, c'est, comment dire, l'interface ou le manuel d'exploitation d'un mythe fondamental. Donc on a rituel, effectivement des systèmes de répétition, d'orientation, de circulation, etc. On a ce rituel dont, si je puis dire, le système d'exploitation est le rite, qui lui-même est souché sur un mythe. Et à quoi ça sert qu'il y ait cet intermédiaire, qui soit souché sur un mythe ? C'est que le mythe, il raconte une grande histoire. C'est ce que certains appellent un méta-récit. Un méta-récit, ça sert à quoi ? Ça sert à s'identifier. Ça sert, pour les humains, justement, à être au-delà de la simple survie et du simple confort, c'est-à-dire à être susceptible de se raconter au-delà de leur composition organique. Et donc, c'est ce que font les grands mythes. Sauf que pour pouvoir le vivre, et pour pouvoir s'identifier, il faut pouvoir s'identifier de façon physique, incorporée. Et on voit bien que la plupart, toutes les religions fonctionnent sur des grands mythes, et que ces grands mythes, ils ont besoin d'incorporation. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la liturgie. Ce qui permet d'incorporer le mythe. Enfin, un chrétien authentique, lorsqu'il va à la messe, c'est pour être présent, en présence du Christ, à un moment donné, dans une situation qui est une situation stratégique. Et donc il doit revivre cela, et donc s'assimiler des principes, mais en les incorporant. Alors dans le christianisme, c'est encore plus, hein, il s'incorpore, il se nourrit même de ça, la transsubstantiation. Donc ça, cette dimension, elle est absolument nécessaire. Le problème, maintenant je vais faire très très vite et je vais basculer justement sur la question centrale que je pose dans le chaos, et qui aboutit à cette idée que la modernité n'est pas vécue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a été trahie à la base, c'est que le problème, c'est que pour vivre cette troisième strate qui est proprement humaine, on ne peut pas se passer de ce que j'appelle la transcendance, je vais y revenir. Et pour définir plus exactement, à minima, on ne peut pas se passer de ce que j'appelle la transcendance brute. Brute. Pourquoi brute ? Pourquoi j'appelle brute ? J'appelle ça brute. Comme une énergie brute, à minima, non encore raffinée par les usines de raffinage que sont les religions. C'est-à-dire non encore encadré par des représentations spécifiques, par des esthétiques spécifiques, etc. La promesse de la modernité, contrairement à ce que croient beaucoup de francs-maçons du Grand Orient de France, encore aujourd'hui, qui ont pu d'ailleurs m'attaquer violemment en pensant que j'étais une sorte de traître à je ne sais quoi, c'est que la promesse réelle de la modernité, c'est la promesse de cette transcendance brute, directe. C'est pour ça qu'on parle de liberté. La liberté, c'est une qualité insécable, non numérique, non quantifiable. C'est d'ailleurs la définition d'une qualité. Une qualité, c'est ce qui ne peut pas être quantifié. Il faut s'en souvenir. Si ça ne peut pas être quantifié, c'est que ça transcende toute quantification. Ça ne veut pas dire que c'est un divin exprimé par une extériorité spécifique, etc. Ça veut dire que ça transcende toutes les formes d'objectivité, y compris technique, des deux premières strates, y compris le confort. Ça veut dire que ça transcende. C'est, si on prend la pensée d'Emmanuel Kant, qui est quand même, on pourrait dire, celui qui manifeste l'idée de philosophie des Lumières. Ce n'est pas quelqu'un qui remet en cause la transcendance. C'est même le contraire, la philosophie des Lumières. C'est un pari sur cette transcendance brute et directe dont est issue l'idée de liberté. Mais si vous ne croyez pas à la transcendance brute, c'est-à-dire au fait que le monde n'est pas purement, ne peut pas être purement mécanique, ne peut pas être purement déterminé et déterministe à tous les niveaux, comment pouvez-vous croire à la liberté? Et comment pouvez-vous croire à la démocratie, à la république, etc., etc. Tout ça devient un décor vide, puisque la base du suffrage universel, c'est une mystique. C'est une mystique pure. C'est l'idée que c'est un acte de foi qu'il va ressortir quelque chose de la transcendance brute de l'individu, que les philosophes des Lumières appellent la subjectivité, d'ailleurs que Kant appelle la subjectivité transcendantale, qui est à la base de ce qu'on appelle les droits de l'homme, qui nous font passer des droits personnels, persona, le masque de théâtre, c'est-à-dire les droits déterminés par notre niveau dans la société, notre hiérarchie, etc. Et là, non, d'un seul coup, on fait confiance à cette transcendance brute, qui s'exprime à travers la subjectivité, et qui rend possible la démocratie, etc. Mais si vous parlez de liberté, vous parlez de démocratie, vous parlez, mais vous dites, néanmoins, moi je suis réaliste, et je pense que le monde n'est que matériel, etc., 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 mais juste, c'est une dissonance cognitive pure. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ce qui menace la franc-maçonnerie. Ce qui menace la franc-maçonnerie, c'est de n'être plus qu'un décorum auquel les frères maçons ne croient même plus, et donc ils sont dans une sorte de reproduction, de reproductivité, de quelque chose qui presque les fait rire à un certain niveau. Ils en veulent à d'autres frères qui eux disent « Non, non, moi je fais le pari direct. » Et si vous voulez que je dise que la franc-maçonnerie est une religion, ben oui, mais une religion, c'est pas forcément dogmatique. Parce que justement, c'est ça, la transcendance brute. C'est non prédéterminé par un encadrement religieux, mais ça ne remet pas en cause les religions. Mais ça remet en cause le fait que les religions se dogmatiquement cherchent à imposer leur vision particulière représentée de la transcendance. D'où la notion de symbole dans le maçonnisme. La notion de symbole qui est intégrative de toutes les traditions, quelle que soit leur dimension, et qui reste tout le temps ouverte. C'est le pari de l'ouvert, et donc d'une transcendance majeure, directe. Sauf que la transcendance brute, ça suppose la liberté à l'état brut. Et la liberté à l'état brut, ça suppose quoi? Ça suppose une responsabilité à l'état brut, tout aussi brut. Et ça, dès le 19e siècle, ça va entraîner en quelque sorte une sorte de, comme quand on est devant un abysse, ça va entraîner une réaction de vertige. Et c'est pour ça qu'on a reconstitué une sorte de théologie déterministe. On ne pouvait plus revenir à un monde avec la détermination du divin, tout est écrit, etc., qui était pourtant un monde à la fois fermé par une tradition, mais en même temps plus ouvert que ce qu'est le déterminisme matérialiste, puisqu'il y a toujours la présence-absence du divin, qui est quelque part une ombre qui contrôle, y compris le pire des dictateurs. Alors que dans le matérialisme pur, on n'est plus dans l'autorité, même de celui qui fait reposer son autorité sur l'absence de Dieu, mais on est sur du totalitarisme qui est fondé sur l'idée déterministe pure. Et c'est très exactement ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec usage du darwinisme, avec, chez les nazis par exemple, avec usage d'une théorie scientifique de l'histoire, comme l'on sait. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas le fait qu'il y ait une théorie scientifique de l'histoire, c'est le fait de dire que ça permet de tout expliquer puisque tout est déterminé. Ce que nous dit Kant, et je reviens à Kant, Kant il nous dit une chose, alors cette phrase que je vais prononcer, ça a l'air d'être compliqué, ça fait philosophique et abstrait, etc., mais je vous préviens tout de suite, je fais ce qu'on appelle un trigger warning, hein, mais ça ne l'est pas, une fois que je vais vous dire ce que c'est. Il nous dit, Kant, qu'il faut avoir un nouveau type de foi qu'il appelle la foi rationnelle, qui n'est pas la foi dans la rationalité, mais qui par contre l'idée que lorsqu'on est vraiment rationnel, on ne peut pas ne pas avoir la foi dans quelque chose qui n'est pas rationnel. Pour quelle raison? Pour une raison, et j'ai l'impression qu'on l'a oublié ce truc-là, pour une raison, ce qu'il appelle le postulat de la raison pure pratique. C'est ça. Le postulat de la raison pure pratique, c'est quoi exactement? Le postulat de la raison pure pratique, d'abord, c'est le mot postulat qui d'habitude est péjoratif dans les conversations courantes. On dit, ah, c'est un postulat, autrement dit, non, non. Kant nous dit, un postulat, c'est que c'est nécessaire, ça veut dire que c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être expliqué, par nature, ça ne peut pas être expliqué, mais c'est nécessaire. Et donc, le niveau, il y a le niveau postulat de la raison pratique, en général, il est très bien compris, celui-là. Je vais voir. Il est très bien compris, le postulat de la raison pratique, généralement on réduit Kant au postulat de la raison pratique, parce que ça nous arrange dans notre société incroyante d'elle-même. Raison pratique, ça veut dire, qu'est-ce que c'est la raison pratique? C'est un autre mot, c'est synonyme de la morale ou de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique. Ça veut dire les raisons de ma pratique, c'est-à-dire quelles sont les raisons que je donne à mes actions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et alors là, Kant il nous dit, voilà, on a un besoin absolu de considérer qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'autre, par exemple, pour le respecter, qui n'est pas objectif. C'est pour ça que c'est par la subjectivité transcendante. Si je considère que l'autre n'est que objet, au sens propre et littéral, il devient uniquement l'objet de mes objectifs. C'est-à-dire de stratégie pure. Ce que Habermas appelle le marketing politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idées politiques, il y a juste de combien de personnes vont voter pour moi si je dis je ne sais pas quoi. Oui. Ok ? Donc, il nous dit, il faut absolument considérer cette subjectivité. Sauf que, même Habermas et tous ces gens, ils disent qu'en même temps, ils sont matérialistes. Mais c'est complètement incompatible. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est écrit en allemand que c'est compliqué et qu'on en fait 2000 pages que c'est pas tout aussi absurde à la fin. Si on n'a pas la partie postulat de la raison pure. Parce que qu'est-ce que nous dit la partie postulat de la raison pure ? Il nous dit... Il faut avoir la foi dans cet absolu, de ce que Kant peut appeler la chose en soi, ou par, dans d'autres textes qu'il appelle autrement, il appelle ça l'objet suprasensible, c'est-à-dire qui n'est pas donné dans ma sensibilité, qui ne peut pas être perçu. Chez les maçons, on pourrait dire le symbole, puisque le symbole, ça veut dire objet cassé, c'est-à-dire que l'objet, le réel en tant que tel, n'est jamais entier. C'est pas une analogie, hein, un symbole. C'est pas une analogie, c'est pas une métaphore. Un symbole, c'est Kant. Je me rends compte que le réel est plus grand que ce qu'il apparaît. Phénoména apparaît, donc il est plus que les phénomènes. Que moi-même, je suis plus grand que ce que j'apparais. Je suis plus grand que même ma mesquinerie, que je connais très bien. Je suis plus grand que ça, et donc je peux faire sans cesse un saut qualitatif. Y compris au cœur même de ma mesquinerie. Et donc ce pari-là de la grandeur, qui est le pari symbolique, qui est le pari du rite, et bien c'est ce pari que fait Kant en nous disant... On doit avoir foi en un objet suprasensible, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle n'importe quoi, qu'on l'appelle principe, qu'on l'appelle grand architecte de l'univers, qu'on l'appelle n'importe quoi. Et il nous dit, pas pour des raisons qui seraient juste comme ça, justement, raisons pratiques, parce que c'est, ça ne serait pas comme, comme Charles Maurras qui disait, je suis catholique, athée, ce qui veut dire en gros, ça veut dire, je suis catholique uniquement par identitarisme. J'y crois pas une seconde, mais par contre je suis catholique uniquement par nationalisme, identité nationale. Ce que fait pratiquement tout le monde aujourd'hui, mais même au niveau régional, au niveau ceci. Aujourd'hui, il y a même un identitarisme de la nature. Ce qui, à mon sens, est complètement fallacieux. Donc quand il nous dit, pour pouvoir y croire, il y a une façon très simple. Mais façon très simple et sérieuse, c'est-à-dire sérieuse, pas faire semblant. Notre société est en train de mourir de ce que j'appelle la semblance. On fait semblant de croire à la politique, on fait semblant de croire à la liberté, on fait semblant sans cesse. Et c'est pour ça que le décor s'effrite, qu'on finit par se mépriser nous-mêmes et qu'on méprise encore plus ceux qui portent le discours de cette semblance que sont les politiques. En fait, à travers les politiques, c'est nous qui nous méprisons. Quand elle avait compris tout ça à la base, à travers un autre principe, après je m'arrêterai là sur la définition kantienne, je terminerai, pour rassurer les organisateurs, qui est le principe des antinomies de la raison pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça peut avoir l'air de faire cours de philo, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux vous montrer à quel point c'est stratégique et ça ne doit pas être vu de façon scolaire, mais de façon vitale. Les antinomies de la raison pure, c'est très simple. C'est de dire, je ne vais pas essayer de vous démontrer l'existence de Dieu, comme on l'a fait cette enseigne de Canterbury. Ça n'a pas de sens de faire ça, justement, parce qu'aujourd'hui, ma conception de la transcendance, si s'exprimait dans mon vocable, j'en aurais été honoré, mais bon. C'est la transcendance brute, je peux dire. Et cette transcendance brute, pour la comprendre, on ne peut pas la démontrer, puisque ça ne se démontre pas, ça ne rentre dans aucun cas, donc aucune représentation, donc aucune démonstration possible. Il nous dit donc, comment est-ce qu'il fait, l'antinomie de la raison ? Il nous dit, si on observe le monde des phénomènes, et ce monde des phénomènes, on voit bien qu'il est vrai en tant que phénomène, on voit bien que ça marche, ça fonctionne comme ça. Bien, ce monde des phénomènes, ce monde de la science, c'est un monde causal, effectivement, il y a des causes et des effets, et la science est libre de faire tout ce qu'elle veut. C'est pour ça que la science ne blasphème jamais, selon Kant. Non pas pour éliminer la religion, c'est qu'elle ne peut jamais dire autre chose que sont ces phénomènes. C'est pas parce qu'on, pour Kant, c'est pas parce qu'on grandit 10 millions de fois avec un microscope électronique la structure de la matière, que c'est pas autre chose qu'une nouvelle perspective sur les phénomènes, c'est-à-dire un nouvel apparaître. Ce n'est que ça. C'est ce dont la mécanique quantique nous donne aujourd'hui même la manifestation, si je puis dire. Que le causal est même limité. Même une perception extrêmement limitée. Et donc quand il nous dit, on ne va pas essayer de démontrer pour posséder ce truc. Par contre, puisqu'on va partir que de ce qui est certain, on sait que le monde est entièrement causal, si on va jusqu'au bout de la logique causale, système de cause et d'effet, si on va jusqu'au bout, les causes et les effets eux-mêmes ne peuvent pas exister. Pourtant, ils existent. C'est donc qu'il y a autre chose que la causalité. Comment il fait pour pouvoir dire ça? Je vous donne le chapeau. Si on est dans un monde fait de causes et d'effets, comme une machinerie qui tourne parfaitement, ce qu'imaginent tous les déterministes en pensant qu'ils sont parfaitement rationnels, alors qu'ils sont irrationnels, selon Kant. Ben, on dit, il faut qu'il y ait une série, une cause, ou une série de causes, pour commencer. Puisqu'on envisage tout le temps tout comme étant un commencement. Sauf que dès que j'envisage les choses comme étant un commencement, et je dis c'est une série de causes, ce sont les causes premières, pour parler comme Aristote, ben immédiatement, je me contredis, puisque il faut que je considère que ces causes ont été elles-mêmes produites dans mon système machinique, si je considère que tout est causal. Et à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas le premier moment, il y a quelque chose qui a été la cause, puis la cause de la cause. Alors on dit, qu'à cela ne tienne, il n'y a jamais eu de commencement, comme ça on peut être complètement matérialiste. Kant nous dit, je vous fais parler comme si on faisait un dialogue, il nous dit, ok, alors imaginons l'hypothèse où il n'y a aucun commencement, et c'est des systèmes de causes sans fin. Mais des systèmes de causes sans fin, ça veut dire que le temps n'a pas de commencement. Si le temps n'a pas de commencement, ça veut dire qu'il est infini. Si le temps est infini, vous divisez le temps par deux, ça fait toujours l'infini. Et quand je dis vous divisez par deux, ça veut dire, tiens, par exemple, je divise le temps par deux avec le moment de ma naissance, il y a un temps infini dans le passé, après ma naissance, il y aura un temps infini dans le futur, d'accord ? Ça serait ça l'idée, quel qu'il soit. Après ma mort, il y a un temps infini aussi dans le futur. Mais Kant nous dit dans un sens, non, je ne peux pas exister, puisque s'il y a un temps infini avant ma naissance, ça veut dire qu'il s'écoule un temps infini avant que je naisse, donc je ne peux pas naître. Je ne peux pas naître s'il y a un temps infini. Alors il dit, mais oui, bien sûr, mais quand même, vous exagérez. Non. C'est très sérieux. Cette histoire est très sérieuse. Ça veut dire que si on considère que le monde est un système causal, comme on le considère quand on prétend être rationnel, le monde, comme système causal, est impossible. Donc c'est pour justifier l'existence de ce dont on est sûr que Kant nous dit, il y a forcément quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger dans le postulat de la raison pure pratique, l'idée de postulat de la raison pure, parce que c'est ça qui permet l'acte de foi réel, qui permet de ne pas faire semblant, qui permet de, lorsque je fais face à mon esprit et que je vais me la jouer, moi en l'occurrence par exemple, je suis néo-bouddhiste, je fais ma méditation, j'ai en tête cette idée kantienne que la pensée, au sens le plus profond, ne peut pas être réduite aux réseaux neuronaux comme le croient les cognitivistes. Parce que si je vais jusqu'au bout même de ce que sont les sciences cognitives, je me rends compte que c'est impossible. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister du point de vue rationnel. Foi rationnelle. Il est rationnel d'avoir la foi en une dimension qui est elle-même irrationalisable. Et là, d'un seul coup, tout redevient possible. Tout redevient possible. Et lorsque les rituels ne sont plus touchés sur des rites auxquels on croit, qui se rapportent à des mythes, qui sont les mythes même du dépassement, qui rendent possible cette transcendance, et bien à ce moment-là, c'est comme si on était dans le vide. Et ma conclusion, ça va être pourquoi est-ce que j'ai appelé ce bouquin de chaos, la promesse trahie de la modernité. La promesse trahie, vous l'avez compris, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à être moderne. On a créé une autre théologie, pire que l'ancienne, c'est que chaos, Je n'ai pas employé le mot latin exprès. Parce que chaos, ça veut dire vide. Mais ça ne veut pas dire comme dans le chaos, quand on dit c'est le chaos, c'est le bordel. Autrement dit, c'est le désordre. Ce n'est pas privatif de quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas le vide qui nous prive de quelque chose. C'est vide de représentation. C'est-à-dire, c'est la puissance de création des mondes. C'est-à-dire, c'est la possibilité même de la créativité. La transcendance concrète, c'est ce qui passe à travers nous. C'est l'amour. C'est l'amour au-delà de la sexualité qui justifie plus. Parce que ça passe par nous. C'est la possibilité de se sacrifier à tous les niveaux. L'héroïsme comme la sainteté, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On ne peut pas changer le monde avec une écologie rationnelle qui serait une écologie des négativités fondée entièrement sur le tri sélectif. Non, le tri sélectif est possible si on projette une croissance qui transcende ça. Pas la croissance peut-être économique, mais autre chose. Mais si on propose juste la décroissance, ça va créer des gens, des intellectuels qui vont se distinguer en écrivant des choses très intéressantes là-dessus, avec lesquelles d'ailleurs tout le monde est d'accord, mais qui ne provoquent aucun régime d'action réel, parce que la tension désirante, c'est distendue. Elle est distendue. Donc ça devient comme de l'éthique sans esthétique. L'esthétique précède l'éthique, parce que c'est la tension désirante qui fait l'humain. Et c'est pas seulement une apparence, c'est vrai. Et si on ne fait pas ce pari, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, c'est l'anomie qui nous guette, si on ne fait pas ce pari. Et c'est l'anomie qui est en train de nous guetter. Or, pour moi, j'ai fini. Pour moi, justement, chaos, ça veut dire transcendance brute. C'est-à-dire ce vide qui n'est pas destiné à être rempli, même si on a le vertige, mais c'est un vertige qui doit rester créateur, et c'est à ce seul prix qu'on peut accepter notre liberté et notre responsabilité sans faire semblant. Et c'est grisant, en fait c'est grisant, cette possibilité, ce risque. Et je crois que la franc-maçonnerie avait pour vocation, dès le XVIIIe siècle, d'être porteuse de cela, par la structure même de ses rites, par son ouverture, par ce truc-là. Or, à mon sens, malheureusement, elle a quand même aussi participé à la trahison de cette promesse. Merci.
Donc, merci beaucoup. On va passer aux questions. Pour moi, je voudrais dire que avec votre intervention, je me suis aperçu que j'étais complexé. Et puis, surtout, ben, je sais pourquoi. Voilà, donc la parole circule. Vas-y.
Merci pour votre exposé. Il me semble qu'on a bien compris, même si vous avez ébranlé dans ce que l'on savait depuis le lycée de Kant. On a bien compris, effectivement, que au-delà des contingences, effectivement, que nous amènent effectivement à reconnaître la raison, il y a derrière une foi nécessaire qu'on a du mal effectivement d'expliquer. Mais je crois que l'histoire nous a montré effectivement ce besoin de foi. Si on a pu déclarer effectivement que Dieu était mort et qu'on avait perdu effectivement cette figure de la transcendance, il nous a fallu en créer. Et nous en avons créé même en se réclamant effectivement de la raison. Je voudrais savoir comment effectivement dans votre exposé, on peut insérer des expériences comme celle de la Révolution française où on a été obligé effectivement de créer un idéal et quasiment une religion. Je pense aussi à un texte de Jaurès, et on ne peut pas dire que Jaurès était un enfant de cœur et encore moins un curé, qui fait appel effectivement à quasiment à la théologie républicaine. Donc là, ça me semble effectivement être des exemples que l'on peut effectivement raccrocher à votre exposé. Et puis même si on va plus loin, et c'est là que l'on pourrait faire la confusion, et peut-être que la confusion elle est juste entre foi et idéologie, on voit aujourd'hui comment des peuples entiers se créent effectivement des récits et en quelque sorte une transcendance qui justifie effectivement des actions la plus vive que la raison leur amène à faire. Je
peux répondre à ça je peux répondre directement. On attend. Voilà. Ok. Je dirais que même pendant la Révolution française, évidemment, mais même dès le XVIIIe siècle, et déjà finalement dès le XVIIe siècle, puisque les choses sont jamais, elles sont toujours contrastées, là j'ai simplifié. Il y a une tension, effectivement, qui existe entre ce désir de liberté avec la dimension transcendante qui va avec, et en même temps une sorte de régression vers une théologie matérialiste, déterministe, qui se veut plus réaliste, mais qui en réalité a peur de la liberté. Déjà, on sent la tension. Ce qui va gagner dans la Révolution française, clairement, c'est la transcendance, à la base. D'ailleurs, on le voit, la déclaration de 1789, l'être suprême, etc., c'est ça. L'être suprême, c'est apprendre comme l'être, en tant qu'être, au sens de Platon. C'est vraiment l'être en tant qu'être, non déterminé, c'est le non déterminé, c'est le chaos. C'est la transcendance brute. Alors, je dirais, ce qui est étonnant, justement, dans le rapport à la République, puisque c'est ce qui a été évoqué, je suis tout à fait d'accord avec ça, ou vous pouvez dire autrement, pour moi, il y a une distinction, justement, entre la foi et l'idéologie. La foi, lorsqu'elle est véritable, elle reste tout le temps ouverte. Parce qu'elle n'a pas besoin de démonstration extérieure. Elle est sa propre satisfaction. Pour le dire encore autrement, pour le dire en termes spinozistes, elle est sa propre satisfaction, elle est sa propre jouissance. Elle jouit d'elle-même. Je pense que, puisque je parlais du djihadisme tout à l'heure, que mon interprétation des djihadistes et des fondamentalistes, c'est qu'ils ne croient pas assez. Donc ils ont besoin de démonstration extérieure, de gestuelle, qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort, pour se faire croire qu'ils existent et qu'ils croient. Parce que celui qui croit profondément, il n'a pas besoin de l'écho de sa propre voix, même dans la violence qu'il explicite à l'extérieur. Il n'a pas besoin de prosélytisme violent, il n'a pas besoin d'entendre sa propre voix. Autrement dit, lorsqu'on a la foi dans une transcendance, c'est au nom même de cette transcendance qu'on est tolérant. On n'est pas tolérant parce qu'on tolère et qu'on pense que l'autre a tort. C'est parce qu'on sait que l'autre est plus grand que ce qu'il a l'air, puisque moi aussi je suis plus grand que ce que j'ai l'air, etc. Et donc, automatiquement, ça crée un phénomène d'hybridation des consciences et d'ouverture. Pour moi, c'était ça le sens de la maçonnerie, de porter ça au plus haut niveau d'intensité. Alors qu'en sens inverse, dire « il n'y a plus de transcendance, moi je suis entièrement déterministe, etc. », qu'est-ce que ça engendrait au sein de la maçonnerie dans la société ? Ça a engendré une nouvelle théologie archi-fermée, matérialiste, qui s'est traduite par le fait de désigner l'autre comme étant intolérable, comme ne s'habillant pas comme il devrait, n'étant pas comme ceci, comme cela. J'appelle ça, moi, la modernité en puissance et la modernité en acte. C'est un peu comme des enfants, des parents qui diraient à leurs enfants, je pense à mon propre père d'ailleurs, c'est, moi, maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors c'est une déclaration, c'est déclaratif, c'est en puissance. Alors je dis, oh, c'est cool, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc tiens, je vais m'habiller comme ça, je vais me maquiller, même si ça a l'air d'être comme une fille, après tout, c'est cool. Pourquoi Et là, mon père me regarde et me dit, mais ah non, mais ça tu peux pas, tu vois. Bien sûr, mais je suis d'accord, tu es libre, mais quand même. Ben, c'est comme si la modernité en acte, c'était les mêmes qui prétendent, les républicains qui prétendent défendre la République, mais c'est la mauvaise, parce qu'ils disent, ah non, mais vous êtes libre, de cette liberté que j'ai prédéfinie dans ma représentation de ce qui est être digne d'être libre dans une république. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, les enfants. C'est qu'à partir du moment où tu fais ce pari de la transcendance, d'ailleurs, tu fais le pari de la confiance dans l'identité de l'autre, tant qu'elle ne va pas, elle ne met pas en péril l'identité du suivant. Mais réellement, objectivement, sans faire semblant, sans dire « ah, ça m'offusque ». Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire que la foi... ça serait l'idéologie, ça serait de la foi qui est rassie, qui n'arrive plus à croire en elle-même et qui en a besoin de faire des démonstrations et de la contrainte politique et morale.
On va juste reprendre une seule question, parce qu'on est un peu en retard. Allez-y.
Ah, Kader, il faire une petite
question. Oui, allez-y.
Oui. On en reparle.
Raphaël, dans ton exposé, tu nous as dit plein de choses, mais de ton point de vue, compte tenu de la démarche que tu as adoptée, qui trahit la modernité? Alors, tu as critiqué la démarche maçonnique, mais il faut tout de même replacer les choses, encore une fois, partant de ton point de vue, hein, replacer les choses dans le contexte historique qui est celui de la fondation de la maçonnerie, qui était pas seulement une singularité, mais qui apportait à la modernisation de la société, là je me réfère à la philosophie des Lumières, qui apportait à, cette, à la société des idées particulièrement novatrices. Alors, si on prend historiquement un parcours tel que tu l'as démontré tout à l'heure, aujourd'hui, évidemment, on ne dirait pas la même chose de la maçonnerie que ce qu'elle a été depuis sa fondation il y a 250 ans, et probablement de ce qui a été cette course. Alors, je te repose la question, hein, qui trahit?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que si je critique la maçonnerie, c'est parce que j'aime la maçonnerie. La première chose, c'est ça. C'est parce que je pense qu'il y a une chance, et je pense que ça peut... Non, mais je veux bien le dire.
C'est pas une attaque.
Mais je tenais à dire ça néanmoins. C'est-à-dire que c'est parce que je pense que ça vaut le coup, sinon je ne serais pas là, justement. Je pense que ça vaut le coup. Je pense qu'il y a, au sein même de la maçonnerie, à nouveau des tensions qui vont dans un certain sens et d'autres qui vont dans un autre sens. Et que finalement, moi, j'essaye de me battre pour que ça aille dans le sens que je préconise, qui est celui de ce que j'appelle la modernité authentique, de cette promesse, pour qu'elle soit remplie. Et je pense toujours que c'est le véhicule qui pourrait être le véhicule idéal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui trahit, c'est pas la maçonnerie en tant que telle, c'est que la maçonnerie, elle va participer à une évolution sociale, et à une évolution sociale qui existe. Moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir participé au lieu de préserver, et donc d'avoir été, en quelque sorte, entraîné dans ce processus d'évolution sociale. Mais si j'avais à dire de façon philosophique, ce processus d'évolution sociale, il a deux aspects. Je le détaille dans le livre, je ne peux pas... D'un côté, il a, comment dire, une sorte de néo-positivisme, qui aboutit au positivisme logique, c'est-à-dire le scientisme, ce qu'on appelle de manière générale le scientisme, c'est-à-dire il n'y a aucune marge de manœuvre pour l'interprétation, on va connaître tout le réel, etc., etc., ça, qui, comme je vous l'ai dit, est irrationnel, même du point de vue scientifique. Et d'un autre côté, c'est ce que j'appelle la technique pour la technique, le remplissage, on a horreur du vide, donc on remplit avec de la technique, ça aboutit au capitalisme, à l'idée de je remplis de technique, je remplis d'efficacité, je remplis mais sans savoir pourquoi je remplis, parce que quelque part, plus je remplis, plus je me vide, à un autre niveau, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et le deuxième niveau, c'est qu'une fois que la technique pour la technique n'aboutit pas, que plus personne n'y croit, c'est ce qu'on est en train de vivre, on passe dans ce que j'appelle le cycle de l'identité pour l'identité, qui est encore pire dans un sens. Puisque, et là, c'est la deuxième grande trahison. Et là, cette deuxième grande trahison, ça serait ce que j'appelle l'heideggerianisme. C'est-à-dire, voilà, alors que j'ai fait mon mémoire à Sciences Po sur Heidegger, et j'ai l'impression de ne... Je suis revenu sur Heidegger, alors que je l'admirais, en me disant, il m'a roulé. Il m'a roulé dans la farine, comme 99% des intellectuels actuels qui utilisent Heidegger pour critiquer la société de consommation, etc. Mais c'est entièrement fondé sur le retour à l'identité pour l'identité pour l'identité. L'être là d'Heidegger, pour moi, c'est une foutaise. C'est l'être là et pas ailleurs. Et donc, c'est vraiment le contraire de ce que dit Deleuze, le côté rhizomatique, etc. C'est l'enracinement exclusif. À la fin, il ne reste plus que identité pour l'identité pour l'identité, mais sans transcendance. Et donc, ça revient au même. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'Hannah Arendt s'est trompée. Quand elle dit, Hannah Arendt, que le mal radical, c'est la technique pour la technique, enfin la bureaucratisation de l'existence, etc., etc., et qu'elle montre, elle dit Eichmann, c'est la bureaucratisation de l'existence. Non. C'est vrai que c'est la banalité du mal. Mais c'est pas encore le mal radical. Pour qu'il y ait mal radical, il faut qu'il y ait concentration du système bureaucratique et de la technique pour la technique sur l'identité pour l'identité. Et c'est ce qui s'est passé avec les nazis. C'est-à-dire que d'un seul coup, si la technique, elle part tout azimut dans toutes les directions, si je puis dire, elle dégueulasse le monde, mais sans se concentrer sur un objectif terminal. Et donc, à partir du moment où il y a l'identité, il y a concentration sur un objectif terminal. Le problème, c'est que notre société est en train de basculer dans un cycle identitariste, donc elle est en train de focaliser vers un objectif terminal, sans transcendance. Vous voyez le risque ?
Merci. Merci. Juste avant de vous libérer et de se quitter, je souhaiterais, Monsieur Loyer, de vous remettre au nom des coprésidents que sont Jacques Orifice et Patrice Lotte, le diplôme de membre d'honneur des Imaginales maçonniques et ésotériques d'Épinal.
Merci beaucoup.